Les jardinières. Rediffusion. Les jardinières.
Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre professionnelle Cathio Racine, jardinière à Delémont.
Bonjour.
Le mois de septembre touche à sa fin, mais on n'a pas fini de jardiner. Entre citrouilles et potirons prêts à se faire charcuter pour Halloween, il y a encore plein de belles choses à faire au jardin. Chaque semaine, on attend impatiemment le samedi matin pour répondre à toutes vos interrogations. Interrogations autour de vos fleurs, de vos arbres, du gazon, de vos plantes intérieures et même de votre potager.
Trois jardinières rien que pour vous ce matin. Vous avez jusqu'à 8 heures pour poser toutes vos questions à notre spécialiste Cathio Racine, jardinière à Delémont. N'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 939 en commençant votre message par le mot jardin, suivi d'un espace avant la question. Un formulaire internet est également à votre disposition dans l'onglet émission. Vous cliquez questions aux jardinières. Et pour nous expliquer au mieux votre problème de jardinage, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Cathio aura le plaisir à converser avec vous directement. Ne vous gênez surtout pas. En plus, il n'y a rien de plus beau qu'une bonne voix du matin comme ça.
On profite des premiers instants de la matinée entre 7h et 8h pour prendre soin de votre jardin. Allez, c'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Les derniers sont les premiers. On commence avec une question qui nous était parvenue la semaine dernière, à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre. C'est José qui a une question sur les plantes potagères. Elle possède un poivron mini qui a beaucoup donné cette année. Est-ce une plante éphémère ou est-ce qu'elle peut la garder en cave comme son romarin, Cathio ?
Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir avant tout, c'est si cette plante est en pot ou si elle est en pleine terre. Si elle est en pleine terre, c'est un petit peu difficile de la rempoter. Donc on lui provoquera déjà un choc. Ensuite, la mettre à l'intérieur pour continuer de la faire pousser durant l'hiver. Si elle était en pot, elle peut tenter le coup. Par contre, il faudra quand même qu'elle trouve un endroit qui soit ni trop frais ni trop chaud, avec pas mal de lumière, puis continue un arrosage. Ce qu'elle peut faire également avec cette plante, c'est bien la tailler pour la préparer pour l'hiver, pour lui redonner une forme, une jolie forme, la réduire pour qu'elle n'ait pas trop d'énergie à donner dans des pousses qui ne servent à rien. Et puis essayer éventuellement, pourquoi pas, de la mettre dans un couloir, par exemple un couloir d'immeuble où c'est juste tempéré, c'est pas trop frais. Puis pourquoi pas essayer de la tirer en avant pour l'année prochaine. À tenter.
Est-ce qu'il y a des plantes similaires à ce petit potiron pour justement peut-être donner des conseils aux auditeurs? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ressemblerait à ça pour pouvoir faire pareil?
Pas trop. Après, sinon, on va dans les plantes méditerranéennes, les citronniers, les choses comme ça. Mais après, c'est une autre façon de passer l'hiver pour ces plantes-là.
Et la garder en cave, vous trouvez que c'est une bonne idée ou au niveau de la température, ça peut poser problème?
Alors, la cave, la température est toujours idéale. Ce qui manque toujours cruellement dans nos caves, c'est la lumière. En général, je ne connais pas de cave qui ait beaucoup de fenêtres. Donc voilà, tout être vivant a besoin de lumière pour vivre. Donc si on met une plante en cave, une plante qui a des feuilles, qui a besoin d'une photosynthèse, évidemment, ça ne fonctionnera pas.
On a André de Delémont qui a planté un Cénotus Tirsophlorus repens, donc c'est connu aussi sous le nom de Lila de Californie, donc c'est un peu plus simple à prononcer. Il l'a planté ce printemps et l'a bien grandi durant cet été, mais il n'a pas fleuri. Il est bien fourni, beaucoup de branches et de feuilles, et il a donc deux questions. La première, c'est est-ce que la plante vivace qui va peut-être fleurir, est-ce que cette plante vivace va peut-être fleurir l'an prochain?
Alors, qu'il n'ait pas fleuri cette année, c'est tout à fait normal. En général, quand on plante un arbre à floraison, l'année où on le plante, c'est très très rare qu'il fasse de jolies fleurs. Peut-être qu'il en fera une ou deux, ça c'est bien possible. Après, il porte bien son nom, ce lilas. Il vient de Californie. Donc, vu qu'on a un climat légèrement différent de la Californie, ça pose un peu problème au niveau de l'hiver. Et c'est typiquement une plante qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur pour hiverner. Donc, il faut vraiment qu'il tente le coup. C'est une plante qui supportera au maximum une descente à moins 5 degrés, mais sur un très petit laps de temps. Donc je pense que chez nous, ça va être compliqué. Ce qu'il peut faire pour l'hiverner, surtout pas l'emballer. Ça, il ne faut surtout pas faire chez nous. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'emballer le haut des plantes. En fait, on les prive de tout, quoi. On les prive de lumière, on les prive d'air, on leur laisse l'humidité à l'intérieur. Et en plus, ils gèlent, donc c'est un petit peu comme si on les mettait au congélateur, finalement. Donc ce qu'il peut tenter de faire, si cette plante est en pleine terre, c'est de bien pailler le dessus de la terre paillée, c'est-à-dire on peut faire ça avec la paille, avec des branches de sapin, vraiment des copeaux par exemple, mettre une très grande couche pour isoler les racines, parce que c'est ça qui est le plus en danger sur les plantes en hiver. Et si cet arbuste est en pot, là il faudrait vraiment qu'il le mette contre une paroi à l'est où c'est que ça gèle très très peu, et là par contre bien emballer le pot. Toujours protéger les parties basses des plantes, pas les parties hautes.
Donc il n'y a pas besoin forcément de rentrer la plante si elle est en pot par exemple pour la protéger cet hiver.
Non, je pense qu'elle ne supportera pas. Ce n'est pas une plante méditerranéenne, donc c'est vraiment compliqué chez nous à avoir des plantes comme ça, ni dedans ni dehors finalement.
Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve en magasin, on va dire, le style de plante du lilas de Californie. C'est assez spécial quand même.
C'est
quand
un peu particulier. Ouais. C'est des plantes qu'on trouve souvent dans des grandes jardineries, qu'on trouvera peut-être pas forcément au Jura, ou alors carrément chez des jardiniers, ou peut-être ce monsieur a commandé cette plante parce qu'il l'a vue et qu'il avait envie d'avoir
Une jolie plante, oui, effectivement, mais malheureusement, nous ne sommes pas en Californie.
Malheureusement.
Mais bon, en tout cas, c'est possible de tenter, en tout cas, de garder ce lilas de Californie. Alors voilà, tenez-nous au courant, hein, André de Delémont, si jamais votre lilas a tenu l'hiver ou pas. Et on a Jacqueline de Beuvais qui se demande si elle doit mettre ses tomates sous serre, et si oui, quel type de serre lui conseillez-vous ?
Les tomates, on peut les cultiver de deux façons. L'important, c'est qu'elles ne reçoivent jamais d'eau. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir de la pluie qui leur tombe dessus, simplement. Donc, on peut très bien, si on a un avant-toit qui est bien placé, bien exposé au sud, les mettre sous l'avant-toit, les cultiver en pot, il n'y aura aucun problème. Attention dans l'arrosage, il faut être très, très régulier dans l'arrosage avec la tomate. Ne pas mettre des grandes quantités d'eau et après les laisser pendant 3-4 jours avoir soif. Après, on peut très bien faire des serres, on peut faire des serres soi-même avec des restes de bois et puis du plastique qui sera adapté aux serres, donc qui laisse passer une certaine quantité d'UV. Et on peut aussi acheter des serres dans le commerce qui sont en polycarbonate, donc là qui seront un peu plus coûteuses. Mais l'important dans tout ça, c'est d'avoir une très bonne ventilation. C'est-à-dire que la serre, elle va permettre d'avoir un climat qui est plus chaud, peut-être un tout petit peu plus humide, mais ça doit vraiment être très bien ventilé pour éviter le développement de champignons ou de bactéries ou de ravageurs, etc. Et surtout pouvoir l'ombrager quand on a eu des étés comme on a eu cette année. Parce que sinon, c'est vraiment trop chaud.
Est-ce qu'il faut choisir sa serre en fonction du légume ou ça n'a pas forcément d'influence ?
Non, ça n'a pas d'importance. Il faut plutôt choisir les légumes qui seront adaptés à être cultivés en serre chez nous.
Et justement, vous parliez d'aération. Je reviens là-dessus. Comment on peut faire pour avoir une aération dans une serre ? Est-ce qu'il faut installer quelque chose de spécial ou simplement le mettre vraiment dans un courant ou bien un endroit particulier ?
En général, quand on construit une serre soi-même, l'important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, aux deux extrémités, aux deux bouts, faire des portes de manière à ce qu'on puisse enrouler le plastique et bien qu'il y ait un courant d'air qui se passe dans le couloir de la serre. Quand c'est des serres qui sont achetées dans le commerce, ils ont toujours un système d'aération où il y a des plaques qui se lèvent sur le toit pour pouvoir aérer. Mais ça reste du manuel quand on reste dans un jardin potager, évidemment.
Et Sarah, je crois que vous aviez une question de Lucie de Courtedoux.
Oui, Lucie de Courtedoux aimerait planter un fraisier. Est-ce la bonne période et comment elle doit s'y prendre ?
Non, maintenant, tout ça, c'est terminé. On a bien vu que toutes les nuits se rafraîchissent. Il y a eu même quelques gelées le matin, donc il ne faut plus du tout planter ce genre de plantes pour le moment. Le fraisier se plantera plutôt au printemps, je dirais à la fin du printemps. Et puis, on va lui préparer sa place, le planter avec une distance convenable, parce que le fraisier fait des stolons, c'est-à-dire qu'il va faire des petits, en fait, mais il va étaler ça sur quelques dizaines de centimètres. Et en fait, il va donner l'année d'après. Donc, si elle veut des fraisiers, elle devra les planter au printemps 2018 et elle aura des récoltes, peut-être déjà quelques fraises à l'automne, mais sinon, ce sera pour 2019.
Eh bien, merci Cathy. On rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h ce matin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Cathy Racine, jardinière à Delémont, pleine de bonnes expériences et de bons conseils. Sarah, comment est-ce qu'on peut faire ?
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et là, vous pourrez discuter directement avec Katiou. Si vous êtes un peu timide, il y a aussi d'autres moyens. Par exemple, SMS au 939. Vous tapez en début de message le mot « jardin », vous laissez un espace et puis votre question. Ou sinon, il existe aussi un formulaire sur nos sites internet sous l'onglet « Questions aux jardinières ».
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les envoyer par SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin, puis en laissant un espace avant votre question. C'est ce qu'a choisi Nelly de Keuve. Elle a la doucette qui a le mildiou et est-ce qu'elle peut la manger, Cathy Racine?
Oui, bien sûr, il ne risque pas de lui arriver grand-chose. Après, voilà, il faut voir comment sa doucette est atteinte, parce que ce n'est pas super de manger une doucette qui a des taches blanches ou des taches noires sur la doucette. Mais question santé, pour elle-même, il ne peut absolument rien lui arriver. Par contre, il faudrait peut-être qu'elle, si elle fait plusieurs cultures, en général la doucette, on la sème plusieurs fois, il faudrait peut-être, si c'est vraiment beaucoup atteint, éliminer ce qui est maintenant... malade, bien repréparer le sol et puis peut-être faire une nouvelle semence pour qu'elle ait de la doucette qui n'a pas de mildiou.
Alors justement, pour tous les gens qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est que le mildiou, peut-être ce serait bien de le rappeler pour les gens qui ont ça et qui ne savent pas ce que c'est, Cathy. C'est quoi ?
Alors le mildiou, c'est une maladie qu'on trouve fréquemment dans nos régions, qui touche les tomates, enfin qui touche principalement les légumes, on va dire. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on peut traiter avec des produits, soit, je dirais pas bio, parce qu'avec du bio, s'il y a vraiment du mildiou, ça va plus être efficace, mais des produits naturels ou des produits... plus chimique. Par contre, à l'exemple d'une doucette qui est une toute petite feuille de salade, finalement, si on va mettre un traitement là-dessus, on va plus s'intoxiquer nous que de combattre la maladie. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir sur quelle culture on traite et puis sur comment on utilise ça pour pas se nuire à soi-même.
Ou alors utiliser un engrais naturel peut-être.
Pas un engrais, parce que sinon ça va faire prospérer la maladie.
J'allais dire c'est pas possible.
Non, un produit naturel, oui, on peut. Il existe moult recettes sur Internet. On peut regarder, il y a des bonnes choses à prendre. Après, encore une fois, quand c'est un début de maladie, c'est jouable. Quand c'est vraiment une grande attaque, c'est un petit peu comme nous quand on est malade. Si c'est un rhume, on peut se soigner soi-même. À un moment donné, on est obligé de se soigner avec du chimique. Donc, c'est exactement la même chose.
On a une question de Louis de Bienne. Il nous demande, pour que mes tulipes fleurissent au printemps prochain, est-ce que je peux planter les bulbes maintenant ?
Oui, il faut les planter maintenant. On est en pleine saison pour planter les bulbes qui fleuriront au printemps. Donc là, il y a les tulipes, il y a les narcisses, il y a tout plein de fleurs qu'on voit dans le jardin au printemps. C'est juste le moment maintenant de le faire. Pourquoi ? Ces bulbes doivent... gelés pour faire leurs réserves pour pouvoir fleurir. Donc on va maintenant préparer ça, c'est aussi assez important. Souvent les gens achètent des bulbes et puis font un petit trou puis les plantent dedans. Il faut quand même bien préparer le sol, faire une petite un trou avec bien remuer la terre, que ça soit bien meuble. Les bulbes se plantent environ à 20 cm de profondeur. Et puis, ils vont passer l'hiver, ils vont avoir froid. Et puis, au printemps, ils vont, avec le choc thermique, développer leurs feuilles et leurs fleurs. Ce qui est aussi important, à la fin de la saison, ne jamais couper les fleurs de printemps. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin de la floraison, c'est pas très joli, c'est brun et jaune. Et puis, on se dit, je vais couper ça parce que j'ai pas envie de voir ça. Non, il faut absolument pas. Il faut les laisser faner sur place, et du moment où on peut les tirer à la main et que ça vient tout seul, on peut les enlever. Mais avant, surtout pas. Parce qu'ils ont besoin de ce temps-là pour se repréparer déjà pour la prochaine saison. Si on les coupe, on aura uniquement de la feuille et pas de fleurs.
À part les tulipes, il y a d'autres bulbes qu'on peut planter maintenant pour le printemps ?
Oui, il y a les crocus, il y a justement tout ce qui est narcisse, jonquille, enfin il y a pas mal de sortes de bulbes, mais c'est vrai que la tulipe reste le leader de nos régions, et puis en plus maintenant il y a vraiment des variétés qui sont magnifiques, mais il y a pas mal de bulbes à planter.
Et peu importe les variétés, ça change rien pour les planter, tout ça, ça.
Non, puis c'est très très bien adapté chez nous, donc c'est très facile, il faut juste respecter justement cette fin de floraison pour qu'on ait quelque chose d'efficace l'année d'après.
C'est tellement joli d'arriver au printemps et de voir les tulipes arriver.
C'est fantastique.
Ouais.
Ça nous réveille.
Exactement. En tout cas, Cathy Racine, merci pour toutes les réponses à ces questions. On rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et vous qui nous écoutez, je suis sûre que vous avez plein de questions à lui poser sur votre jardin, sur votre potager, vos plantes en pot, etc. Que sais-je, vos arbres fruitiers. Eh bien, pour ça, il y a énormément de moyens pour le faire, Sarah.
Vous pouvez faire chauffer le téléphone en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin suivi d'un espace. Il y a encore le formulaire internet sur nos sites internet sous l'onglet questions aux jardinières.
On va faire une petite pause musicale puis un point sur le ciel et la route et on se retrouve juste après.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont encore là pour vous durant cette demi-heure. Nous sommes en compagnie de notre super jardinière de Delémont, Cathy Racine.
Vous avez encore cette demi-heure pour bénéficier du savoir de Cathy Racine en nous appelant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939 en notant bien le mot jardin et un espace en début de message.
Et le SMS, justement, c'est le moyen qu'Olivier a choisi ce matin pour nous poser sa question. Mes clématites ont attrapé l'oïdium. Dois-je tout couper jusqu'au pied pour éviter l'infection l'année prochaine, Cathieu?
Alors, non, pas forcément, parce que l'oïdium, il va se détruire avec l'arrivée des gelées. Donc, par contre, ce qui peut maintenant être un petit peu inquiétant à cette période ici, c'est que l'oïdium, c'est une maladie cryptogamique, donc c'est un champignon. Et puis, ça se propage très, très rapidement sur d'autres plantes. Donc, le risque qu'il y a un petit peu maintenant... Si on a encore un automne qui dure en beauté assez longtemps, c'est que d'autres plantes soient attaquées. La clématite, elle risque pas grand-chose parce que c'est une plante qui pousse assez facilement. Donc même si on devrait la rabattre complètement au sol, elle va reprendre l'année prochaine. Par contre, il peut y avoir d'autres plantes à côté qui risquent d'être malades ou atteintes et puis qui ne seront pas récupérables. Donc voilà, il faut voir un petit peu dans l'état qu'elle est maintenant. Si vraiment il y a une forte attaque et puis qu'il n'y a plus rien à tirer de cette plante, effectivement, il faudrait la rabattre au sol à peu près à 10-20 cm du sol. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que les branches qu'on va enlever, tout ce qui est atteint ne doit surtout pas être mis dans le compost. Pourquoi ? Parce que ces champignons vont passer l'hiver tranquillement au chaud dans le compost. Ce monsieur va récupérer son compost au printemps pour mettre dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement propager toutes ces petits spores de champignons sur... Il va les remettre dans son jardin, en fait. Donc, quand on a des plantes qui sont comme ça atteintes, le mieux, c'est de les mettre dans un sac plastique, bien fermer ça, et puis mettre ça dans la poubelle. Et puis éloigner ça de la maison le plus facilement possible, le plus loin possible, parce que ça sera
plus facile pour la suite. C'est vraiment très très nocif.
Exactement, parce que c'est un champignon. Et puis on sait très bien que les champignons, quand ils sèchent, ils font des spores qui se déplacent dans l'air, et puis vont se reposer ailleurs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc oui, il peut couper sa clématite, il peut peut-être lui mettre un petit peu d'engrais maintenant pour l'automne, pour lui faire passer un hiver agréablement. Et puis au printemps, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, elle devrait repartir.
Et ça peut être nocif pour nous ?
Du tout.
Non, c'est vraiment quelque chose.
Problème. C'est vraiment une maladie qui va... C'est des taches blanchâtres qu'on trouve sur les plantes. On voit beaucoup ça maintenant en fin de saison. Et puis c'est une maladie... C'est un champignon qui se développe par temps sec, par temps humide. C'est vraiment très difficile de combattre. Après, on peut traiter, mais maintenant, ça ne vaut vraiment pas la peine.
Et il y a d'autres exemples de maladies comme ça qui pourraient être prises en compte assez sérieusement, justement, pour la propagation aux autres.
Alors, tout ce qui est maladie qui part, en fait, de champignons. Quoi. Le champignon se propage très vite. Donc, surtout les champignons qu'on ne peut pas manger. Hein, c'est clair que les morilles, on ne les trouve pas partout dans le jardin.
Les champignons
qu'on peut
dommage.
Pas consommer. Oui, bien dommage. Hein, mais voilà, il faut vraiment faire attention avec ces maladies qui partent de la base d'un champignon.
On va parler rosiers, Cathieu. Il y a Madeleine de Porrentruy qui a planté justement des rosiers, mais en pot cet été. Et évidemment, ils sont en train de faner. La saison chaude s'achève. Est-ce qu'elle peut les garder dans le pot jusqu'au printemps prochain ?
Alors, ça dépend un peu de la taille du pot. Si c'est un tout petit pot, je vais dire un peu n'importe quoi, de 20 cm de diamètre, non, évidemment que non. Parce que s'il vient à geler cet hiver, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit en début d'émission, les parties basses, donc les racines vont geler et puis le rosier va mourir. Après, si c'est dans des grands pots qui feront peut-être 60 ou 70 cm de diamètre, oui, elle peut les garder. Il faudra de nouveau... bien emballer le pot, faire attention que le pot soit pas forcément en contact avec le sol, qu'il y ait aussi de l'aération qui passe là-dessous pour pas que ça gèle par le bas. Et puis, par contre, son rosier, il faudra qu'elle le taille maintenant. Il faudra enlever tout ce qui est fané, tout ce qui est sec. Justement, typiquement, sur le rosier, si on laisse des feuilles... faner et risque de venir l'oïdium.
Voilà.
Donc c'est des parties qui sont faibles, donc il va venir dessus des maladies, va s'installer des ravageurs qui vont venir hiverner là. Donc enlever vraiment tout ce qui est sec, tout ce qui est fané, le tailler un peu, mais attention, le rosier se taille plutôt au début de l'année. Donc là, on va juste le rabattre un peu pour enlever tout ce qui n'est plus viable. En fait.
Donc pas forcément couper trop court. Hein.
Non, du tout. Vraiment lui faire un rafraîchissement. Et puis voilà, le mettre le plus à l'abri du gel possible que les parois de maison, on peut facilement, si on met les pots à l'est, en général, ils ne gèlent pas, à moins qu'ils fassent moins 20. Ouais, ça, c'est sûr.
Évidemment. OK, donc tout n'est pas perdu pour le rosier.
Non, tout n'est pas perdu.
Parfait. Sarah, vous avez quelqu'un en ligne.
Nous avons reçu un appel de Bonfol. C'est un monsieur qui a un gazon sur lequel, en fait, il a mis un herbicide, vu qu'il avait des plantes qui traînaient par là et dont il ne voulait pas. Ensuite, il a tondu ce gazon et il en a mis sur son jardin et il voulait savoir si ça posait un problème vu qu'il avait mis cet herbicide. Est-ce qu'il pouvait quand même faire ça ?
Je ne comprends pas très, très bien la question. le problème, je pense que c'est, d'après ce que je comprends, l'herbicide sur le jardin. J'imagine.
Oui, c'est ça.
Alors voilà, donc si c'est le cas, il n'y a pas de problème. En général, si on met un herbicide, il n'y a aucun résidu dans la terre. Hein. Ça n'existe plus depuis belle lurette, les herbicides qui fonctionnent dans la terre. Ça fonctionne uniquement par les feuilles de la plante, par la photosynthèse. Donc l'herbicide va être absorbé par la plante. Et cette plante, par son fonctionnement de sève, va faire descendre l'herbicide dans ses racines et ça va la détruire. Mais dans la terre, il n'y a pas de résidus. C'est clair que s'il a traité, de toutes les manières, il faudra laisser 2 à 3 semaines pour que les plantes se détruisent complètement. Et puis, durant ces 2 à 3 semaines, évidemment, tout va s'évacuer. Donc, il n'y a aucun problème s'il veut cultiver quelque chose de consommable derrière.
Merci, Cathy Racine. Nous avons reçu un SMS. Un SMS qui nous demande pourquoi certains bouts de haies sont-ils secs à certains endroits ?
Alors là, il peut y avoir plusieurs facteurs. En général, dans les haies, quand il y a des morceaux, des segments, on va dire, qui sont secs, il faut faire attention, il y a l'araignée rouge. Ça, c'est un petit ravageur qui est tout petit, il ne faut pas avoir peur, on ne le voit pas, mais qui fait des grands dégâts. On voit, si on a une haie, je ne sais pas, qui fait 10 mètres, on voit parfois 1 mètre tout brûlé au milieu de la haie. Bien souvent, c'est cet acarien qui fait des dégâts dans les haies. Ça, vous trouvez dans les commerces des produits pour traiter. Il n'y a pas d'autre moyen que de traiter de manière chimique. Après, il peut y avoir, parfois, si vous êtes au bord de la route et puis que le bout de votre haie vient brun, il se peut qu'un petit loulou passe tous les jours là et puis fasse son petit pipi au pied de votre tuya. Et puis, ben, au fur et à mesure, au bout de 5, 6 mois, une année, ben, voilà, le tuya ne supporte pas cette urine qui est pas bonne finalement de manière régulière. Le reste, ça peut être tout d'un coup dans le sol aussi qu'il peut y avoir des larves. On peut aussi s'amuser à creuser un petit peu sur 20 cm, voir s'il n'y a pas un ravageur dans le sol. Ça peut arriver aussi.
Mais une haie, au bout d'un moment, elle vieillit. Est-ce que ça arrive justement qu'elle arrive à fin de sa vie, on va dire ?
Normalement pas, non. Parce que dans les tuyas qu'on voit chez nous, qui sont bien en place, c'est des plantes qui sont très rustiques. Et puis on voit vraiment des haies qui ont parfois 50, 60 ans. Après, c'est clair qu'elles ont aussi besoin qu'on leur donne un petit coup de fouet dans l'année. Il faut leur donner un peu d'engrais. Moi, je trouve qu'il faut éviter de les arroser en été, quand il fait très chaud, parce qu'elles s'adaptent très bien à cela. Donc voilà. Mais normalement, non, c'est increvable, comme on dit.
Sarah, vous avez quelqu'un en ligne ?
Oui, c'est Daniel de Bonfol qui est avec nous.
Bonjour, Daniel.
Bonjour. Alors, j'avais une question sur les arachides.
On vous entend très, très mal, Daniel.
Alors, je vais peut-être éteindre la radio.
S'il vous plaît, oui, ça serait déjà très, très bien. Et puis...
Voilà, c'est fait.
Voilà, c'est déjà mieux, me semble-t-il. On vous écoute.
Voilà, alors j'ai des amaryllis que j'avais l'année passée. Et je les ai, donc quand ils ont fleuri 2 fois, je les ai coupés. Je les ai mis dans un endroit un petit peu sombre. Et puis, je voudrais savoir s'ils vont repousser ou si je vais avoir que des feuilles.
Alors, normalement, ils devraient vous faire de la fleur. Après, il faut voir un petit peu comment vous les avez mis en repos, parce que c'est effectivement un bulbe. On revient un petit peu au même que la tulipe, finalement, sauf que la marilis n'a pas forcément besoin de terre pour fleurir. Donc, elle a vraiment besoin d'une période de repos complet, c'est-à-dire que vous avez fait juste, il fallait mettre dans un endroit sombre, on peut même les mettre dans la nuit complet, et puis stopper l'arrosage, enfin, ne plus du tout les humidifier pendant une certaine période. Normalement, Pardon ?
Depuis l'année passée, depuis le mois de janvier, je ne les ai plus arrosés. Donc.
D'accord, et puis vous les aviez mis vraiment dans un endroit tout sombre, ils n'ont pas bougé. Ils ont
fait des petites feuilles, mais j'ai coupé au fur et à mesure.
Oui, vous avez bien fait. Alors s'ils ont fait des petites feuilles, s'ils n'ont pas vraiment fait ces longues feuilles qu'on voit d'habitude quand ils fleurissent, normalement, cet hiver, ils devraient vous faire des fleurs. Mais théoriquement, pendant cette période de repos, il ne devrait absolument rien se passer. Donc, je pense que peut-être il y avait quand même un peu de lumière où vous les avez mis.
Oui, je les ai mis dans le corridor en haut. Il y avait un petit peu de lumière, mais pas vraiment c'est sombre. Quoi.
Normalement, l'idéal, ça serait vraiment de les mettre dans la nuit complète. En fait, ils ont quand même fait un peu des feuilles parce qu'elles avaient quand même de quoi se réveiller, mais pas suffisamment pour faire ce qu'elles devaient. Mais ce qu'il vous faut faire maintenant, c'est commencer de les mettre dans des conditions de culture. Et puis, à mon avis, oui, à Noël, vous aurez probablement des fleurs.
D'accord, alors je peux commencer à donc les remettre à la place où ils étaient avant,
oui.
Devant la fenêtre, et
oui.
Les arroser.
Vous pouvez peut-être faire une étape entre, c'est-à-dire les mettre dans un endroit où il ne fait pas trop chaud, puis où il n'y a pas trop de lumière, juste qu'ils se réveillent tout doucement. Parce que maintenant, si vous les mettez vraiment derrière la fenêtre, puis qu'on a encore des journées qui sont belles, le problème qu'il y a, c'est qu'elles vont démarrer avec des feuilles à fond, et puis elles ne vont pas pouvoir sortir les fleurs.
D'accord.
Merci beaucoup, Daniel.
C'est moi qui vous remercie.
Belle journée, merci.
Au revoir.
Et vous avez encore quelques minutes pour poser votre question à Cathy Racine. Sarah, comment est-ce qu'on peut faire ?
Vous nous appelez au 0901 70 20 20, comme l'a fait Daniel de Bonfol, pour 36 centimes la minute. Et vous pouvez directement parler de votre problème de jardinage avec Cathy Racine. Sinon, il y a le SMS au 939. On lit tous vos SMS. Il suffit d'abord d'écrire le mot jardin et de laisser un espace avant votre question. Et il y a encore le formulaire internet sur nos sites internet où vous vous trouverez sous questions aux jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Cathy Racine, vous êtes notre professionnelle ce matin et Yves de Porrentruy se demande comment éviter que des champignons apparaissent dans le gazon.
Alors, le gazon, c'est un grand sujet qu'on peut développer maintenant. C'est parfait parce qu'on est en plein dans la bonne saison. Ça rejoint un tout petit peu ce dont on a parlé avant. En fait, les champignons, ils apparaissent sur un gazon qui ne sera pas forcément très bien entretenu ou sur lequel on n'a pas donné les moyens de pousser correctement. La première chose à faire, si vous voyez des champignons pousser dans votre gazon, c'est de les enlever et, comme on a dit avant, vraiment de les mettre dans un sachet plastique et les évacuer à la poubelle. Pourquoi ? Parce que si on laisse ces champignons, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout d'avoir ça dans leur gazon. On les laisse, ils fanent et pareil, ben, il y a des petits spores qui vont s'envoler avec dès qu'il viendra un petit coup de vent et ça va partir non seulement dans notre propre gazon, mais aussi dans ceux des voisins et bien plus loin si le vent est fort. Donc pour éviter ces champignons dans le gazon, il faut savoir qu'au printemps et à l'automne, il y a des travaux à faire dans le gazon si on veut avoir un gazon qui est convenable. Après, il faut bien faire la différence entre un gazon et de l'herbe. Si on a un alentour de maison qui est avec de l'herbe, ben voilà, on a décidé qu'on laissait aller comme ça, c'est pas un problème, c'est plus un problème pour les voisins que pour nous. Si on a vraiment un gazon qui a été semé il y a plusieurs années ou même l'année en cours, à l'automne, il y aura plusieurs choses à faire. C'est-à-dire que maintenant, les feuilles commencent de tomber. Donc, la première chose à faire, c'est d'évacuer ces feuilles. Pourquoi ? Alors, il y en a qui diront, oui, super, les feuilles, ça fait de l'engrais. Oui, ça dépend combien il y en a sur le gazon. Si vous ne voyez plus la couleur de votre gazon, ce qui va se passer, c'est qu'avec l'humidité que nous avons ces temps le matin, plus la pluie et le brouillard et tout ça, ces feuilles ne vont jamais sécher. Et puis, sous ces feuilles, le gazon, en fait, va pourrir parce qu'en fait, il sera toujours humide et il n'aura jamais de lumière et il ne pourra jamais sécher. Donc, ça peut lui apporter du compost, mais ça peut aussi le tuer. Donc, attention au double tranchant. Donc, il faut vraiment ratisser ces feuilles. Et puis, ces feuilles, vous pouvez très bien les mettre au compost pour utiliser le compost l'année d'après. Donc, ce n'est pas perdu. Ensuite, une fois que ça sera fait, il faut scarifier le gazon à l'automne, en général. Donc, scarifier, ça veut dire qu'on enlèvera la mousse, avec soit de manière manuelle ou avec un appareil électrique ou à essence. Et cette mousse, on va l'enlever, donc on va aérer le gazon. Avec la scarification, il va aussi venir tout ce qui est gazon mort, donc tout ce qui est sec. Ça va vraiment faire un nettoyage en profondeur sans toucher à la terre, parce que ça ne touche pas à la terre. Et puis une fois qu'on aura fait cette cette scarification, il faudrait la ressemer. Parce que quand, pour ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà passé le scarificateur, une fois que vous avez passé ça, franchement, il ne reste plus grand-chose. Donc là, l'idéal, il faut vraiment ressemer de manière généreuse pour qu'il n'y ait pas la place pour les mauvaises herbes, finalement. Il vaut mieux qu'il pousse du gazon que de la mauvaise herbe. Et puis, quand on aura fait ce semis, c'est juste la bonne période maintenant, on est en plein dedans, il va peut-être mettre 2 ou 3 semaines pour se développer. On va faire une dernière tonte pour l'automne, un coup d'engrais, et puis on est prêt pour passer l'hiver.
Est-ce qu'il faudrait mettre aussi de la fumure d'automne à cette période pour notre gazon ?
Alors oui, bien sûr. Il existe des engrais qu'on appelle engrais de semis et d'automne, qu'on trouve quasiment dans tous les commerces de la place. C'est important d'en mettre à l'automne pour justement lui donner un coup de fouet pour pouvoir bien passer l'hiver. Donc ça, c'est important de le faire.
Et comment on s'y prend ?
Alors, on va acheter notre engrais et puis on peut le mettre de deux manières, l'engrais. On peut le mettre soit avec un appareil spécial qui est un petit appareil à roulettes et puis qui dispensera l'engrais nécessaire, ou alors on peut le mettre à la volée, c'est-à-dire que tout le monde se rappelle dans le temps quand nos grands-mamans donnaient à manger aux poules qu'elles lançaient le grain. Et bien l'engrais, il se lance de la même manière. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est qu'on doit aller en quadrillage, c'est-à-dire que si on prend un terrain qui est carré, ce qui n'est pas toujours le cas, on va aller une fois dans un sens et une fois dans l'autre pour croiser le mouvement, sinon vous aurez des jolies traces dans votre gazon de où j'ai mis de l'engrais et où j'ai pas mis de l'engrais.
Ah, grâce à tous les conseils de Cathy Racine, votre gazon ne peut être que magnifique et reprendre parfaitement pour le printemps prochain. Cathy, justement, on arrive bientôt en fin d'émission. On allait quand même vous demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de très important au jardin en cette saison pour tous les gens qui justement s'adonnent à cette activité et qui ne sauraient pas quoi faire ni comment s'y prendre pour continuer avec l'hiver qui, ma foi, arrive quand même à grands pas. Même si on a encore des beaux jours devant nous, qu'est-ce qu'on peut faire de primordial ?
Alors, mis à part le gazon, ce qui est important de faire maintenant, c'est d'enlever tout ce qui est sec sur nos plantes. Si on prend par exemple le cas typique de la lavande qui a fini complètement de fleurir maintenant, elle a toutes ses hampes florales qui sont sèches, et bien ça, c'est des choses qu'il faut couper. Tout ce qui est sec, tout ce qui est fané, mais faites attention, ne taillez pas trop court parce que les plantes ne sont pas encore en arrêt végétatif. Hein. Elles poussent encore, elles sont encore en vie, en activité, on va dire. Donc vraiment couper tout ce qui est sec, tout ce qui est fichu, tout ce qui est cassé. On peut déjà bien nettoyer. Et puis pensez à nettoyer aussi vos étangs pour ceux qui en ont. On peut enlever ce qui est déjà fané dans les étangs.
Merci Cathy Racine d'avoir répondu à toutes ces questions ce matin. Et bien voilà, la dernière émission du mois de septembre est terminée. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous samedi prochain, toujours de 7h à 8h.
Pas besoin d'attendre samedi prochain pour partager vos questions avec nous. Vous pouvez dès à présent remplir le formulaire sous questions jardinières ou nous envoyer un SMS au 939 en n'oubliant pas le mot jardin et l'espace avant votre question. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir à tous.
7h, 8h. Les jardinières.